Funky.
Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Bien, que faire pour améliorer la production agricole en République démocratique du Congo? Vous savez que les agriculteurs font souvent face à de nombreux défis. On peut citer par exemple l'accès difficile à des semences de qualité, le changement climatique et l'apparition de certaines maladies qui affectent évidemment les cultures. Conséquence, la production agricole est faible, le rendement est faible. Et bon nombre de produits que nous consommons d'ailleurs sont importés de l'étranger. Alors que faut-il faire pour soutenir les agriculteurs, particulièrement les petits producteurs, afin d'améliorer le rendement? Eh bien, on en parle avec le professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en sciences et technologies des aliments, qui intervient depuis la ville du Bandundu. Professeur Jean-Claude, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journal.
Alors, professeur, à part les raisons qu'on a présentées ici, quels sont les autres motifs qui font que la production agricole, qui font que les agriculteurs n'arrivent pas à obtenir un bon rendement?
Merci et encore mes salutations à tous les auditeurs de la radio Kati. Ça tombe bien parce que je suis dans le monde rural pour le moment. Et lorsque vous discutez avec les paysans ou que vous lisez les rapports de certains experts, vous pouvez y lire parmi les difficultés que l'on rencontre pour le développement d'une agriculture compétitive. On peut avoir le manque de fertilité des sols. Vous avez la mauvaise qualité des semences, vous l'avez si bien dit. Le mauvaise technique culturelle. Vous avez les maladies qui sévissent. Et le manque d'infrastructures de base. Vous avez les routes, l'énergie, l'Internet qui manquent dans le milieu rural. Le manque de main-d'œuvre qualifiée. Le manque aussi d'accès au financement, parce que bon, l'agriculture, c'est quand même un exercice qui demande beaucoup de moyens. Et puis, vous avez le manque d'un système de normalisation ou une réglementation efficace.
Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que l'agriculture aujourd'hui a des problèmes. Oui. Alors, parlons par exemple de la fertilité du sol. Généralement, on nous dit que le Congo est un pays dont le sol est très fertile, professeur.
Ça, c'est ce qu'on dit, mais lorsque vous lisez les rapports sur la fertilité des sols, d'abord, on est sous les tropiques, il pleut beaucoup. Et nos sols sont à caractère acide. Donc, c'est pas des sols qui sont très très riches. C'est des sols qui peuvent être riches. Après amendement, il faut les amender régulièrement pour garder la fertilité. Les sols tropicaux ne sont pas réputés riches parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc, vous avez toutes les matières organiques qui sont dans le sol qui vont être lessivées à cause de précipitations et des choses comme ça. Donc, ce ne sont pas des sols riches à proprement parler.
Alors, mais parfois on dit souvent que, par exemple, à l'est du pays, là où il y a beaucoup plus des volcans, le sol est très fertile.
Le sol de montagne.
De montagne.
De montagne. Mais généralement, le sol que nous avons en grande partie en République démocratique du Congo et qui sont consacrés à l'agriculture sont des sols qui sont pauvres et qui demandent des amendements réguliers. Mais les vraies raisons de la faiblesse de l'agriculture, ce n'est pas la fertilité des sols. Parce que bon, parfois, lorsqu'on parle de la fertilité des sols, les gens voient les rendements. Lorsque vous semez et que les rendements ne sont pas bons, les gens incriminent directement la fertilité des sols, qui peut ne pas être la raison majeure des pertes des rendements. Mais parmi les raisons, il y a aussi la fertilité des sols. Mais la fertilité des sols n'est pas la raison majeure de perte de rendement en République démocratique du Congo.
Alors, on peut dire, quelle est la raison majeure, alors, professeur? Est-ce les changements climatiques l'absence des semences de qualité?
Alors, si on doit faire un diagnostic du secteur agricole en République démocratique du Congo, je veux dire qu'il faut un travail de fond. Un travail de fond qui doit se faire au niveau étatique. Je prends l'exemple de la province de Kwilu, là où je suis actuellement. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur un partenariat entre l'université et le ministère de l'Agriculture et Développement Rural de Kwilu ici, pour essayer de relancer le secteur agricole au niveau de la province. Alors, lorsque vous faites un diagnostic de ce secteur, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les petits producteurs sont abandonnés à leur triste sort. C'est ça qui est inquiétant, parce que ces agriculteurs, en fait, je les appelle même pas petits producteurs, parce qu'il n'y a pas de grands producteurs. On parlerait des petits producteurs dans un pays où il y a les grands producteurs. Donc nous n'avons que ces producteurs-là. Donc ces producteurs, il faut les accompagner. Il faut les accompagner pour les rendre compétitifs, pour les aider à avoir une production de qualité. Alors ça, c'est un travail qui doit se faire au niveau des programmes, de l'État, au niveau des gouvernements provinciaux. Mais des discussions que nous avons avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ici, il ressort que pour relancer ces petits producteurs, il faut commencer. Enfin, c'est pas un schéma idéal comme on le croirait, mais il faut commencer par déterminer les spéculations prioritaires. Quelles sont les spéculations prioritaires qu'on doit relancer au niveau et avec le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, son Excellence Moussa Mamalela, on a discuté plusieurs heures pour dire, voilà, nous sommes une province agricole, quelles sont les spéculations que nous devons prioritairement lancer au niveau de la province? Et ça ne suffit pas. Après, il faut se dire, mais oui, ce sont des spéculations prioritaires.
Oui.
Quelles sont les zones appropriées pour chaque spéculation?
Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire que les petits producteurs, par exemple, vous êtes dans le Kwilu, est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus le manque d'accès aux semences de qualité qui pose problème?
C'est un manque d'accompagnement. L'accompagnement, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement les semences. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire les actions qu'il faut que l'on mène pour essayer de les rendre compétitifs. Parce que sans ces agriculteurs-là, les importations terres ne peuvent que croître. Donc, lorsque vous avez choisi les zones prioritaires, les zones appropriées pour les spéculations, il faut former les agents qui vont s'occuper de l'encadrement des producteurs. Hein, il faut définir même le niveau de financement de ces agriculteurs. C'est pas des petits malheureux, ces gens. C'est des gens qui travaillent dur. C'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés par des financements de haut niveau pour les aider à rester compétitifs. Et il faut choisir des sites. Il faut choisir des sites pilotes. Il faut pas commettre l'erreur. Je suis désolé de le dire comme ça. Il faut pas commettre l'erreur comme celle de Bukanalozo. Vous faites un placement de ces niveaux-là sur un site qui n'est pas approprié pour accepter les spéculations qui doivent y être placées. Après, il faut former aussi les producteurs. Hein, il y a un problème de main-d'œuvre, je l'ai dit tantôt. Les main-d'œuvre, vous savez qu'ici chez nous, l'agriculture est souvent faite par des femmes. Et vous connaissez l'histoire de notre pays. Pour la plupart des temps, les femmes sont un peu laissées à la traîne. Elles n'ont pas accès à la formation. Ce sont ces femmes-là qui tiennent l'agriculture. Ces femmes, on doit les former.
Hein? Mais généralement, on a appris que généralement, ces petits producteurs dans les villages, se regroupent en associations et ça leur permet de bénéficier des formations et des autres et des financements.
Ce sont des associations de noms, monsieur le journaliste. Ce sont des associations de noms. Il ne faut pas que l'État laisse les petits producteurs entre les mains des petites associations. Ces petits agriculteurs, tels que vous les appelez, représente le poumon du développement de la RDC. Et vous savez que c'est l'agriculture qui participe en grande partie au PIB de notre pays. Alors, si ces agriculteurs sont abandonnés à leur triste sort, il n'y aura rien. On ne peut pas s'attendre au développement Si on veut s'attendre au développement, il faut un programme d'accompagnement de ces petits producteurs. Et ça ne doit pas s'arrêter à une petite émission à la radio Capi. Parce que ces gens-là, ben moi je peux leur dire quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour fertiliser les sols, pour ceci. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ces agriculteurs vont faire face à une concurrence internationale.
D'accord.
Et ces agriculteurs, pour rester compétitifs, on doit les accompagner en permanence. Il faut un programme, il faut une réglementation qui puisse les aider à rester compétitifs,
à devenir compétitifs. Voilà. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir deux auditeurs en ligne. Louboya nous appelle de Kananga et Kabea depuis Ilebo. Louboya, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour Dodia et l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, je n'ai pas de questions comme telles, mais je voudrais d'abord remercier la Radio Okapi pour les choix du sujet. Et en plus de cela aussi, vous remercier pour les commentaires faits par l'invité. Mais la grande difficulté, parce que vous avez choisi un sujet qui parle sur la relance agricole, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont décelés dans beaucoup de nos milieux locaux ici. Moi qui vous parle, je suis un technicien en développement rural et aussi un technicien agronome des ITA Tshibashi. Donc, dans beaucoup d'interventions sur les radios différentes localement à Kananga, nous avons en fait présenté quelques pistes de solutions pour que le gouvernement d'abord, qui est notre lait, s'il faut le dire, en matière de développement et de relance agricole, nous lui avons suggéré des problèmes tels qu'il faut recruter des techniciens en développement rural, des agronomes, qui ont des compétences, qui savent propulser les techniques et méthodes qui pourront ainsi relancer l'agriculture. Mais ici, chez nous, le plus grand problème, et surtout le plus grand souci qu'on a, c'est que nous sommes dans un système où l'on recrute un biologiste en agriculture, un mécanicien en développement, et finalement c'est du mélo-mélo, on ne sait pas comprendre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous garantir aujourd'hui, s'il faut, même si l'invité a suggéré certaines difficultés, il a parlé de certaines maladies qui attaquent l'agriculture, c'est vrai, on connaît que de telles maladies sont beaucoup plus attendues quand on fait l'agriculture, c'est vrai. Mais il y a des techniques phytopathologiques qui peuvent être utilisées pour éradiquer avec tous les moyens possibles toutes ces maladies qui attaquent les plantes et qui freinent la relance agricole et surtout qui est à la base de l'improduction. Alors, je dis très merci. Merci beaucoup à tous les auditeurs.
Bien.
Et surtout, je veux demander à vous, l'invité, de beaucoup plus insister sur des sujets pareils. Parce que depuis du temps de Mobutu, nous le savons bien sûr, ça a été dit que l'agriculture est une priorité des priorités. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas vu cette priorité mise en valeur. C'est la raison pour laquelle vous, la Radio Okapi, vous avez une très grande tâche de relancer de tels sujets pourvu que la population qui écoute se prenne lui-même en charge en se mettant dans l'agriculture et aussi en mettant en pratique toutes les techniques
merci.
Et méthodes que nous
utilisons
pour relancer le secteur agricole.
Merci beaucoup. Kabea, vous êtes à Ilebo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est François Kabea à Ilebo.
On vous écoute, François Kabea.
Oui. Je remercie surtout l'invité pour son sujet. C'est un sujet qui est très important. Vous savez, les agriculteurs sont souvent négligés partout, surtout ici au Congo. Alors je voulais juste demander à l'invité de nous donner un peu quelle est l'importance de l'agriculture au niveau national. C'est ça un peu ma question.
Merci. Professeur Jean-Claude, vous avez la parole.
Alors, je remercie ces auditeurs. Monsieur Louboya parle du recrutement au niveau des services d'accompagnement. Et il dit qu'il y a des techniques qui existent, qu'on devrait utiliser pour éradiquer des maladies, qu'on a toujours dit que l'agriculture était la priorité, etc. Enfin, moi, j'ai envie de dire une chose. Tout ça, ça nous ramène à un seul problème. Comme je l'ai dit tantôt au début, que pour relancer l'agriculture en République démocratique du Congo, on ne doit pas considérer le problème localement. Il faut un programme. Il faut un programme. Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui est étonnant, c'est que la République démocratique du Congo, ça représente 80 millions d'hectares de terres arables.
4 millions
de ces terres sont irrigables. Et vous avez un potentiel halieutique qui avoisine les 700 000 tonnes de poissons. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'un pays pareil soit déclaré en grave insécurité alimentaire. Et cette situation-là s'aggrave avec les perturbations climatiques. Ça fragilise davantage les petits producteurs. Vous l'avez si bien dit. Et ce sont les seuls producteurs qui existent. Si rien n'est fait, il n'est pas possible en République démocratique du Congo que la famine et la malnutrition, hein, qui est déclarée un peu partout en République démocratique du Congo, soit éradiquée.
Mais professeur, par rapport au recrutement...
Vous allez vous étonner dans un pays comme la RDC,
oui,
qu'une maladie aussi banale, hein, comme le conzo, sévisse dans une province qui a caractère agricole. Tout le monde voit ça et personne ne dit rien.
Professeur, mais nous savons bien que ces producteurs, ces petits producteurs, comme on les dit, sont souvent encadrés. Il y a des moniteurs agricoles, il y a des agents du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage qui sont censés les encadrer.
Mais s'ils sont encadrés, alors on n'en parlerait pas. Si on en parle, c'est que cet encadrement n'est pas efficace. Vous savez, moi, ce que je suis en train de dire ici, c'est que si vous voulez vraiment que le secteur agricole soit relancé, cette relance doit passer par l'entrepreneuriat privé. Autrement dit, on doit essayer de mettre en place toutes les initiatives qui visent à créer de la richesse. Parce que le problème doit être réglé avec l'argent. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est l'argent qui pose problème au niveau de nos agriculteurs. Ils sont pauvres. Et pour ça, il faut les protéger. L'État doit les protéger. Je suis parmi ceux qui défendent un protectionnisme intelligent. Un protectionnisme intelligent, pour moi, ça ne signifie pas que nous devons être fermés à l'extérieur, mais plutôt que nous devons tout mettre en place pour permettre de redynamiser ces secteurs. Parce que c'est un secteur qui est pour moi un secteur, le seul d'ailleurs, créateur de richesses, créateur de valeurs.
D'accord, je reviens.
Secteur agricole.
Oui, je reviens à vous, professeur. Vous avez dit qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat privé parce que l'agriculture est un secteur créateur de richesses. On va accueillir Maître Okito, Laurent de Kinshasa et Maka Jires des Bandundouville. Maître Laurent, bonjour.
Oui, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accordé cet espace de temps pour essayer un peu et donner la contribution. Alors, moi, je dis ceci. Donc, vous savez, le monde agricole a une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur voudrait à ce qu'on tienne compte, premièrement, de la production. C'est-à-dire assurer une production assez croissante. Et puis, deuxièmement, la deuxième valeur, c'est pouvoir transformer ce qu'on produit là. Faire la transformation qui permet à ce que ça puisse entrer dans le monde de compétitivité, de la qualité de ce qu'on produit. Et enfin, la dernière valeur, c'est commercialiser, savoir comment faire qu'il y ait les débouchés. Or, quand nous regardons, la priorité, ça doit être d'abord la production. Parce que quand on sait assurer la production, c'est là où ça permet à ce que la personne cherche maintenant à transformer pour garder au moins sa marchandise en valeur. Mais malheureusement, le budget national au niveau de l'agriculture, ça n'atteint même pas 5% du budget. Or, il y a l'accord de Maputo, de 2002 à Maputo, où les États africains avaient donné comme exigence à chaque État de pouvoir accorder 10% du budget national au monde agricole. Hein? Mais malheureusement pour notre pays, le ministère de l'Agriculture n'a jamais atteint même 5%, j'ai pu estimer comme ça. Parce que il y a, si c'est en 2010 ou 2012, comme ça, j'avais vu, c'était 1,5%, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, ils n'en tiennent même pas compte. Donc, or, même le gouvernement. Si le gouvernement ne sait pas prendre les budgets qu'il faut pour l'agriculture, autant même prendre les partenaires qui appuient le monde agricole pour les mettre en contact avec les privés qui savent déjà produire de manière artisanale pour les appuyer afin qu'ils quittent le monde artisanal vers le monde mécanique qui leur permet d'accroître leur production et jusqu'à arriver même à la transformation et la commercialisation.
Maître Kito, oui, quand vous parlez, oui, de quitter le monde artisanal pour aller dans mécaniser l'agriculture, c'est-à-dire quoi, leur accorder des tracteurs, tout ça, et des instruments pour bien,
oui,
travailler.
Oui, effectivement, il faut leur accorder, pas accorder des tracteurs aux députés, aux ministres, qui ne peuvent que vendre ou, je ne sais pas, abandonner ça sans travail. Il faut donner ça à ceux-là qui ont vraiment le travail sur terrain, c'est-à-dire il faut des champs pour les donner, pâte de houe, des machines, tout ce qui est nécessaire pour la production agricole. Les intrants, on peut parler des intrants. Et en dehors de cela, il faut leur accorder aussi une petite subvention en termes de finances, d'argent, parce qu'un agriculteur, quand il n'est pas encore à la période des récoltes, il a besoin peut-être d'aller à la pêche pour trouver quoi manger, mais lorsqu'il a aussi un peu de financement, non, le pêcheur fait sa pêche, l'agriculteur peut aller acheter les poissons là où le pêcheur est en train de vendre. Maintenant, vous verrez que la personne peut abandonner même son champ pour aller chercher à pêcher, et s'il y a...
D'accord, merci. Merci, Maître Laurent. On a compris à votre préoccupation. Emma Kajires, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Emma Kajires, vous êtes encore là? Non, il n'est plus là. Professeur Jean-Claude, vous avez suivi la préoccupation de Maître Okito. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je le remercie pour son intervention. Alors, moi, je vais dire ceci. Vous savez, le socle du développement, c'est l'agriculture. Et cette agriculture doit être prévue dans sa conception la plus moderne. Cette agriculture doit être repensée. Notre agriculture doit être repensée. Elle doit être repensée et relancée. Et moi, je le dis, je préfère que ce soit par filière. Parce que parfois, ce qui pose problème avec l'exécution du budget, lorsqu'on donne de l'argent au ministère de l'Agriculture, on veut relancer toute l'agriculture de la République démocratique du Congo. Non, ça peut se faire par filière. Nous pouvons dire, cette année, nous allons relancer la filière manioc. Lorsque vous relancez la filière manioc, il a si bien dit, il faut ajouter à la production de base la valeur maximale. La valeur maximale, de la production jusqu'à la commercialisation. Vous savez que, par exemple, au niveau des industries, si vous allez chez Nestlé, ils utilisent le manioc, mais je pense que je ne me trompe pas, ce manioc vient de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas relancé la filière manioc en y ajoutant les valeurs nécessaires que les agriculteurs qui produisent puissent avoir de l'argent. Je reviens sur l'argent.
Professeur, j'imagine que les sociétés brassicoles utilisent aussi le maïs en grande quantité.
Non, ils utilisent le riz. Et là encore, voyez les sociétés brassicoles. Lorsque nous serons, par exemple, à l'étape de relancer le riz, on relance le riz. On doit rajouter de la valeur. Même ce manioc-là, vous savez, vous venez de parler de sociétés brassicoles. Si nous avons accentué nos investissements au niveau de la production du manioc, et qu'il y a des excédents de production, mais nous allons voir nos députés pour leur dire, messieurs les députés, votez-nous une loi. Votez-nous une loi qui obligerait les brasseurs à utiliser dans leur versement telle quantité de manioc. On ne vous trompe pas, hein. On peut faire de la bière avec du manioc. Hein. Okay. On peut faire de la bière avec du manioc. Et c'est ça qui va ajouter de la valeur à la production. C'est ça qui fera que le pays aura des devises. Parce que lorsque vous avez des industries agroalimentaires, et toutes les industries agroalimentaires qui travaillent en République démocratique du Congo, utilisent des matières premières qui viennent d'ailleurs. On ne peut pas soutenir les petits producteurs lorsque leur production n'a pas suffisamment des valeurs.
Mais professeur, souvent, ouais. on entend souvent certaines personnes dire qu'il y a des produits vivriers qui pourrissent dans nos villages, faute des routes, il n'y a pas assez de routes, des dessertes agricoles pour permettre l'évacuation vers les centres de consommation. Alors, en vous entendant parler, vous dites que la production n'est pas très très bonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout cela?
Non, mais c'est-à-dire, moi, ce que je dis, les routes, hein, c'est-à-dire que cette histoire de routes, oui, moi, je veux bien que l'on parle de routes, mais dans le modèle de développement, tout ça, ça va venir. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est le travail de l'État. La première chose, c'est que plus proche des producteurs, il faut installer des chaînes de valeur. Et notre ami Okito l'a si bien dit. Il a dit, la production, ça ne suffit pas. Lorsque vous produisez, vous devez transformer, vous devez commercialiser. Mmh. Production et transformation, ça peut se rapprocher. Commercialisation, nous avons déjà un marché national. Notre Congo, notre RDC, c'est un grand marché. Ne serait-ce que vendre la production au niveau local, ça réduirait les importations alimentaires. C'est quand même inimaginable que les gens consomment les macos qui viennent d'ailleurs. Vous ne voyez pas ça? Vous trouvez pas ça un peu fou?
Même des tomates.
En République démocratique du Congo puissent manger des produits qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons un potentiel halieutique, je l'ai dit,
de
100 000 tonnes de poissons.
Oui. Professeur, vous souviendrez, dernièrement, il y a quelques années, le gouvernement avait distribué des tracteurs dans chaque province pour permettre aux agriculteurs de pouvoir améliorer, les mécaniser l'agriculture et d'améliorer les rendements.
Ça, c'est des choses qui sont faites au pif, comme on dit en français. C'est des choses qui sont faites au pif. Ces tracteurs, moi, je les vois. Je vais vous faire rire, hein. Une fois, je suis passé quelque part, j'étais venu avec un ami belge ici, à Bandundouville. On arrive quelque part, il y a un monsieur qui avait un tracteur et qui nous a invité. Il était fier de nous montrer une plate-bande d'aubergine. Il a un grand terrain, tout ce qu'il nous a montré, c'était une plate-bande d'aubergine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas utiliser son tracteur. Vous imaginez quelqu'un qui a un tracteur et qui est fier de la beauté des aubergines qu'il y a sur une plate-bande. On ne doit pas faire de choses pour le plaisir de les faire. Non. On est un grand pays. On est un grand pays, certes. Mais pour relancer l'agriculture dans ce pays, il faut un programme. J'ai dit, on ne doit pas se disperser. Tous ces problèmes-là que vous posez, les routes, les financements et tout le tralala, c'est bien beau. Mais si on veut un jour, dans ce pays-ci, monsieur le journaliste, retenez cette parole, si ce n'est pas fait, je mourrai, mes enfants mourront. Notre agriculture n'ira jamais de l'avant. Nous devons relancer l'agriculture par filière. On n'a pas les moyens de relancer l'agriculture avec toutes les filières au même moment. Non. Prenez le budget de la République pour l'année 2018. Investissez-vous à relancer le manioc. Vous relancez le manioc de la production de base jusqu'à la valeur maximale. Lorsque je dis la valeur maximale, c'est-à-dire jusqu'à son intégration dans l'industrie agroalimentaire. Une intégration intelligente et agile.
D'accord, professeur,
avec
je reviens.
Une protection, oui. Avec une protection de la loi.
Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir des auditeurs, Clément Daï de Kananga et Joseph Pungu de Kindu. Clément, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à monsieur le professeur.
On vous écoute.
Il est vrai que le professeur connaît avec moi la situation qui se passe réellement ici au Congo. Il a dit que nous avons normalement le sol très riche, il connaît ça. Mais il y a un temps, selon ce qu'il vient de dire, que non, les gens arrivent à utiliser, on manque les semences, parfois on utilise les semences qui viennent ailleurs. Et d'une part, par rapport au changement climatique, la difficulté là embête beaucoup des agriculteurs. Et outre ça, il y a parfois certaines difficultés qu'ils rencontrent sur le champ. Alors je voudrais aussi demander à notre invité, pourquoi le système de vulgarisation est totalement abandonné dans tous les secteurs agricoles, ou autrement appelé les différents territoires de la République démocratique du Congo. Alors la deuxième des questions, selon ce qu'il a dit, j'ai entendu là énumérer un système que je n'ai pas encore, je ne veux pas citer, mais que je risquerais vraiment d'oublier, est-ce qu'est-il vrai que les engrais chimiques et synthétiques détruisent le sol, et quels sont certains conseils qu'ils peuvent donner normalement à ceux qui font le champ afin de relancer le système agricole, car c'est de la culture qui nous fait vraiment vivre, qui nous fait à ce que nous puissions vraiment être écoutés, être entendus dans toutes les zones. Alors la troisième des questions que je voudrais demander à notre invité, il y a un champ où quelqu'un qui a sa ferme à une distance de à peu près 180 km de la ville de Kananga. Alors quand tu m'avais appelé, je suis allé, j'ai retrouvé que non, il y avait autant d'hectares de manioc. Dans les hectares de manioc là, il y avait même des bananiers ici qui avaient bien donné quand il y avait trop de bananes là-bas qui étaient déjà mûres. Alors quand je lui ai demandé le pourquoi, ces bananes-là ne sont pas évacuées, voire même les manioc qui connaissaient déjà la dégradation, il m'a dit que nos routes ne sont pas normalement améliorées, autre ça. Il fait appel aux différentes chaînes locales, alors les gens ne se donnent pas le courage d'aller acheter les produits en question, compte tenu du manque de moyens ou parfois les difficultés rencontrées sur la route. Alors quels sont certains conseils ou certaines méthodes que l'invité peut donner à des gens pareils afin de ne plus se décourager, mais qu'ils continuent à mieux travailler par rapport à ce qu'ils connaissent comme difficultés sur le champ? Voilà certaines questions que je voudrais vous demander à l'invité. Alors merci.
Bien.
À vous aujourd'hui et puis bonne journée chez vous.
Merci Clément. Joseph Pungu, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix et à notre invité.
Nous parlons de l'amélioration de la production agricole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Oui, tout au début on avait du mal à comprendre les explications de l'invité. Maintenant on vient de comprendre très petit. Mais je félicite d'abord l'invité concernant le problème des tracteurs qu'il a parlé là-bas. Parce que là, ici, chez nous, à Kindu, on avait distribué les tracteurs FEMA pour les députés et on avait oublié les agriculteurs. Oh, pas les députés ne sont pas les agriculteurs. Ils commencent seulement à les utiliser dans leur course de ville pour transporter des briques et des terres, pour brûler des briques. Alors, je voulais demander à notre invité, il y a une question que je veux m'adresser à notre invité. Laquelle? Est-ce que l'invité peut me donner un peu les méthodes que mes parents peuvent utiliser pour avoir un peu de récoltes bien? Parce que là, chez nous, à 77 km, route Kalima, mes parents ont souvent du mal et des problèmes à récolter un peu de produits agricoles.
De quels produits s'agit-il?
Oui.
De quels produits s'agit-il?
Oui, même les riz, même les manioc. Lorsqu'ils cultivent même 1 hectare, 2 hectares, ils arrivent à récolter pas moins 3 à 4 sacs de riz. On ne sait pas si le problème des périodes, c'est pourquoi on voulait demander à notre invité. Est-ce qu'il peut nous donner les périodes où on peut arriver à cultiver pour avoir un peu de vraiment des produits bien, ou avoir un peu de récoltes bien, compte tenu de ce qu'on a cultivé? Parce que imaginez-vous 2 hectares, vous gagnez 3 à 5 sacs de riz. Ça ne suffit pas avec la force qu'on a fait. En tout cas, ça fait mal vraiment au cœur. Dédé, j'aimerais demander aussi à notre invité, est-ce que l'État aussi ne peut sensibiliser, soit ne peut donner les engrais chimiques à l'endroit où, soit à une communauté que leur sol n'est pas fertile? C'est ce que moi je voulais demander à notre invité. C'est tout, merci.
Merci. Kazadi nous appelle de Lumbashi. Kazadi Jules, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati. Bon, moi je voulais dire qu'il y a certains coins là où ça ne demande même pas les engrais, tout ça, surtout à l'est du pays, et à côté il y a encore à l'équateur et tout. Il suffit seulement de jeter des graines, des maïs, des haricots par-ci par-là, ça pousse. Donc ces gens-là, ils ont quelles difficultés? C'est seulement les problèmes d'infrastructure. Donc si l'État pouvait commencer à regarder, à voir les bas peuples, construire les ponts, construire les routes là-bas, donc les gens de campagne pouvant commencer à envoyer ou à faire déplacer leurs marchandises jusqu'à au grand centre. Mais pour l'instant, rien n'est fait.
Donc les gens là, ils produisent, mais leurs marchandises sont en train d'être putréfiées là-bas, au village. Alors, ici, à 2 milliers Rio, nous avons un problème. Que si l'État fait, comme à l'époque du gouverneur Moïse, chaque entreprise minière pouvait avoir un champ. Alors, et puis, pour l'accès, le problème d'accès aux semences, aux microcrédits, parce qu'ailleurs, nous sommes en train de voir dans nos voisins ici. Donc, chaque personne a un petit champ. Donc, le problème de
Jules,
ça ne pose pas problème.
Jules,
chez nous, le gouvernement n'arrive pas à s'impliquer.
Jules, oui, Jules, on a appris que vous, même à Lubumbashi, la plupart des maïs que vous consommez, ça vient de la Zambie.
Oui, exactement, monsieur Jody. Et même les bananes, les oranges. Je peux vous faire rire, un jour, je voulais juste acheter des bananes. Mais quand j'ai cherché au centre, ici à Lubumbashi, j'ai cherché partout, il n'y avait pas de bananes. Et les mamans de vendeurs là-bas qui me disaient, non, la Zambie n'a pas, il n'y a pas aujourd'hui les bananes, que c'est très bien. Mais donc je pouvais manger les bananes demain. Donc c'est terrible, les choses que je suis en train de déplorer. Or, nous avons les autorités qui pouvaient détenter seulement cette petite situation-là. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas à mettre un système agricole pour toute la population. Ici, nous souffrons. Ici, si la Zambie ferme la frontière, mais c'est aujourd'hui, c'est tout le monde qui perd.
Voilà.
Il y a des situations de dirigeants. Alors, pourquoi il n'arrive pas, je pose la question à l'invité, pourquoi n'arrive pas à trouver solution par rapport à ça? Voilà, monsieur Jody.
Merci, professeur Jean-Claude.
Ah là là. Mais il y a beaucoup de questions là.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. Clément Ndaye de Kananga vous pose la question de savoir pourquoi le système de vulgarisation est abandonné.
Mais écoute, on vulgarise quoi? Moi, je vais lui dire, vulgariser, ça veut dire donner un message. Tu peux pas courir sans un message.
Oui.
Donc, pour aller vers les producteurs, leur donner un message, il faut avoir le message à leur donner. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, ces gens-là, par exemple, maintenant, ils sont confrontés à des problèmes réels. Les perturbations climatiques, ils savent plus à quel moment il faut semer. Ils savent plus ça. Ces pauvres gens, il faut les aider. C'est pour ça que je suis le journaliste. Ce que je dis, c'est que le problème de l'agriculture, il faut pas le voir au niveau local. Parce que si vous voyez le problème au niveau local, comme notre ami parle des engrais, des routes de chez eux là-bas pour transporter les manioc, des gens, des choses comme ça. Et mon ami qui parle, c'est lui de Pumbu qui est...
Kindu.
Oui. Hein, qui parle des récoltes, vous sémez beaucoup, mais vous récoltez très peu, perte des rendements, des choses comme ça. Ils savent pas quand est-ce qu'il faut semer. Et ils parlent de fertilité des sols. En fait, c'est comme quelqu'un qui est devant une situation et qui est perdu. Il est perdu parce que les pierres lui tombent de partout. On ne peut pas, au stade actuel, se dire « bon voilà, le problème de l'agriculture en République démocratique du Congo ». C'est ce que les gens font, curieusement. C'est ce que certains experts, entre guillemets, font. Ils vont venir avec de propos du genre « ah, la fertilité des sols ». Ils vont commencer à faire un programme de distribution d'engrais, par-ci, par-là, et vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Et parfois, ils vont venir « non, non, les semences, ah, variété améliorée ». Ils vont distribuer des variétés améliorées. Et ça ne marche pas. On ne résout pas un problème comme ça. Pour résoudre un problème, il faut un diagnostic global. Et lorsque je parle du diagnostic global, c'est que je vois l'agriculture dans son ensemble, c'est-à-dire du plus profond du Katanga là-bas jusqu'à Kinshasa. On ne peut pas résoudre le problème des Katangais sans résoudre le problème des gens du Kwilu, sans résoudre le problème des gens du Kwango, du Maïndombe, de Boujimaï, tout ça. Le programme doit se décider au niveau national. Monsieur le journaliste, je vous invite à lire les programmes. Ce sont des programmes que l'on écrit au niveau du ministère. Ce sont des programmes bien rédigés. Très bien rédigés. Mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent que pour exécuter ce type de programme.
Maître Okito a même déploré le fait que le budget alloué, la part allouée à l'agriculture dans le budget national est pratiquement insignifiant.
Mais ça ne veut pas dire que si le budget est insignifiant, on ne peut rien faire avec. Monsieur le journaliste, si vous donnez d'habitude $50 à votre femme pour faire le marché, ça va?
Oui.
Elle achète tout ce qu'elle achète. Bon, parce que vous êtes, vous travaillez dans une grosse banque, des choses comme ça. Mais le jour où vous êtes pauvre enseignant comme moi, que vous ne savez plus avoir les $50 à donner à votre femme, que vous lui donnez $10, elle ne peut pas s'arranger avec les $10 pour nourrir la maison. Il suffit qu'elle enlève, le fromage, le jambon, du yaourt pour les enfants, elle peut nourrir, hein. Elle peut nourrir. Le problème, ce n'est pas les budgets d'abord. C'est ce qu'on fait du budget qui compte. C'est ce qu'on fait du budget. Quand vous avez très peu d'argent, notre pays est pauvre, nous devons nous le dire. Notre pays est pauvre. Lorsque un chef de l'État donne une vision, il choisit un ministre, le ministre doit choisir des stratégies pour aider le chef de l'État à voir le pays devenir ce qu'il veut. Même si je vous donne 1000 francs, que je vous donne 2000 francs, débrouillez-vous, quoi. Bon sang. Ces gens-là ne doivent pas relancer l'agriculture partout en République démocratique du Congo en désordre. Non.
Vous avez dit qu'il faut relancer par filière.
Il faut relancer par filière, monsieur le journaliste. Il faut relancer par filière et il faut donner à la spéculation choisie la valeur maximale. C'est que je dis valeur maximale.
Oui.
Une production locale qui monte et qui intègre l'industrie agroalimentaire et qui intègre même l'industrie de pointe en agroalimentaire. Production d'amidon pour les laboratoires, ceci, cela. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que moi j'appelle un ajout de valeur intelligent et agile.
Bien. Professeur, on va accueillir Crispin Mukendi de Kinshasa. Bonjour Crispin.
Oui, bonjour à Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, je voudrais un peu demander au professeur, vraiment je suis intéressé et très vraiment éveillé sur ce dire. Est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il connaît le projet maïs au Kasaï oriental? Qui avait amené ce projet ici et qu'en est-il venant de ce projet ici? Parce qu'à l'époque, ce projet maïs au Kasaï oriental ici avait fait de bonnes choses. C'est-à-dire, la province du Kasaï oriental avait eu beaucoup de maïs à cette époque-là. Mais du coup, on ne retrouve pas encore ce projet ici. Ce projet, on ne sait pas comment ça en est-il. On a vu les maisons fermées, les véhicules ou les gens qui étaient là-bas emportés. On ne sait pas qu'en est-il vraiment au juste actuellement. Dernièrement, on a suivi le ministre de l'Agriculture. Il a parlé qu'il y a un crédit, un financement qui est venu. Il demandait aux gens de faire le projet, d'aller déposer là-bas pour obtenir le financement agricole. Qu'en est-il de ce projet-là? Merci beaucoup.
Bien, professeur.
Alors, il parle du projet maïs. Monsieur le journaliste, je ne sais pas pourquoi il me pose cette question, parce que je viens de le dire. Je dis ceci. Lorsqu'on relance l'agriculture par filière, ça ne suffit pas. Il faut penser cette relance en ajoutant à la production de base de la valeur et en protégeant l'ajout de valeur par une réglementation de taille. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsqu'on relance le maïs, c'est pas simplement pour nourrir les gens du Kasaï. Cette production doit être suffisante que pour nourrir toute la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on nourrit le Kasaï, si c'est assez, on nourrit les autres provinces, si on a encore assez, on intègre on intègre de manière intelligente et agile dans une industrie qui ajoute de la valeur. Autrement dit, vous allez voir les gens qui fabriquent du pain. Messieurs, vous qui fabriquez du pain, la réglementation en République démocratique du Congo vous oblige à insérer dans le versement de votre panification tel pourcentage de maïs pour résorber cet excédent de production. Cet ajout de valeur va retomber chez les producteurs. C'est comme ça que la production peut continuer. Mmh. Les producteurs abandonnent. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas compétitifs. Ils ne sont pas compétitifs. Notre ami qui est à Kindou nous a parlé du riz. Vous produisez, mais quand vous produisez, vous avez besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, il faut de la valeur à votre production. Que cet argent vous revienne. Cette année, vous avez fait un hectare, que l'année prochaine, vous en fassiez deux, trois, quatre, cinq.
Mais professeur, vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat privé. Premièrement, vous avez dit qu'il faut, pour améliorer la production agricole, il faut un programme d'accompagnement des agriculteurs, surtout des petits producteurs. Vous avez dit également qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat privé. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
L'entrepreneuriat privé, pour moi, c'est ceci. Ce n'est pas tomber dans l'erreur de l'État qui devient agriculteur. L'agriculture, c'est un secteur clé qui doit être donné au privé. L'État ne peut pas devenir producteur. Et vous voyez le modèle russe, on le sait, les fermes d'État, des choses comme ça, ça ne marche pas. Les gens le savent, c'est révolu. C'est des choses qui ne marchent pas. Il faut donner l'agriculture entre les mains des privés. Ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les aider à définir le niveau de financement. Niveau de financement de leur projet. Hein? Et les modalités de remboursement, ce n'est pas des cadeaux. Il ne faut pas que l'État soit angélique. Que l'État choisisse des acteurs qui travaillent dans les secteurs agricoles.
Mais
l'État leur donne des financements. Ce sont des privés. Mmh. L'État leur donne des financements. Et l'État suit, parce que ces gens-là doivent avoir des comptes bancaires. Hein. Doit avoir des comptes bancaires qui sont suivis. L'État doit envoyer ses auditeurs pour voir est-ce que ces gens travaillent correctement, pour les conseiller, pour que la production soit soutenue.
Voilà.
Si on ne le fait pas, oui. Monsieur le journaliste, je vous le jure, que si on ne le fait pas, on n'aura rien.
Voilà, si on le fait pas, on n'aura rien. Donc il faut encourager l'entrepreneuriat privé dans les secteurs agricoles. Et vous avez dit également qu'il faut un programme d'accompagnement des petits producteurs pour qu'ils deviennent compétitifs. Et d'après vous, professeur, il faut relancer l'agriculture par filière. Il faut pas y aller de manière générale. Il faut aller à filière,
par filière.
Et vous avez également dit qu'il faut ajouter de la valeur, une réglementation qui permet de donner de la valeur.
D'encadrer la production, d'accompagner la production.
D'accord. Merci. Hein? Merci.
C'est ce que moi j'appelle le protectionnisme intelligent. Tous les pays font ça. Oui. Il n'y a que nous qui ne le faisons pas. Vous allez dans des pays où on vous définit la courbure de la banane. Vous vous imaginez ça? Ben, si vous demandez à nos députés c'est quoi la définition légale de la chikwangue, on ne sait pas. Je vous dis, la chikwangue du plateau de Bateke. Ben, tout le monde peut fabriquer sa chikwangue et la vendre sous l'étiquette de la chikwangue du plateau de Bateke. Il n'y a pas de protectionnisme. Nous avons des saveurs, nous avons des arômes, nous avons des choses qu'on peut développer. Nous avons des aliments qu'on peut développer, des aliments originaux, des aliments avec des goûts, des arômes de chez nous qu'on peut développer dans une industrie avec une biotechnologie bien étudiée, bien cadrée par un État responsable.
Professeur Jean-Claude Bouanganga, le sujet est tellement intéressant, mais le temps nous fait défaut, on ne sait plus. Continuez, on va peut-être vous recevoir une prochaine fois. On va s'arrêter ici. Je rappelle que vous êtes expert en sciences et technologies des aliments, et là, vous intervenez depuis la province du Kwilu. Merci, professeur, et à la prochaine.
Merci beaucoup.